Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Anne Sinclair.
Bonjour Patrick.
La rafle des notables chez Grasset, c'est un livre qui devait être personnel. Vous vouliez raconter le destin de votre grand-père paternel, Léonce Schwartz, dont la légende familiale disait qu'il avait réussi à s'échapper du camp de Drancy. Et puis vous découvrez qu'en réalité, il avait été déporté et enfermé à Compiègne dans des conditions épouvantables. Et vous découvrez ce pan d'histoire méconnue de la persécution des Juifs sous l'occupation, 7 mois avant la rafle du Veldiv, la rafle des notables. Qui était-il ?
Écoutez, c'était pas un livre sur mon grand-père, même au départ. Je voulais un peu retracer son itinéraire qui, de fait, m'était assez peu connu pendant la guerre. Et à la fin du livre, il ne m'est guère plus connu. En revanche, s'il y a un livre, c'est parce que j'ai découvert, en effet, à la fois une rafle et un camp qui était connu des spécialistes, connu des historiens, mais inconnu en tout cas de moi, et que j'ai voulu raconter cette histoire collective. Au fond, mon grand-père n'est qu'une ombre qui passe dans ce récit, comme l'illustration, j'allais presque dire le prétexte, à raconter une histoire dramatique que j'ai découvert.
Oui, alors qui était-il ? C'est notable, alors, 743 personnes, donc prises un matin de décembre 41 par la Wehrmacht avec l'appui de policiers ou de gendarmes français.
C'était en effet une rafle qui a été voulue par les nazis après, comme représailles, si vous voulez, après des attentats commis contre les forces d'occupation. Et cette rafle était la troisième en France. Il y en a eu une en mai, une en août, et celle-là est de décembre, en effet. Mais c'est la première, et on y viendra, qui a fourni le premier contingent de juifs déportés de France. Et ils ont visé d'abord, en effet, ce qu'ils ont appelé des notables, ou plus exactement, ce qu'en allemand ils appelaient des juifs influents, c'est-à-dire, en effet, des magistrats, des présidents de cour d'appel, des présidents de cour de cassation, des intellectuels, comme le mari de Colette, le frère de Léon Blum, un grand avocat ténor du barreau qui était des sénateurs, qui avait été au cabinet de Clémenceau, des historiens, des intellectuels qui en effet représentaient ce qu'on aurait pu appeler un establishment influent. Mon grand-père, lui, ne faisait pas partie de ça. Il était un petit chef d'entreprise qui avait un commerce de dentelle, en gros, et il s'est trouvé dans cette liste, et cette liste, au fond, avait été puisée dans un fichier juif, ça s'appelait le fichier juif, le fichier Tullard, qui existait à la préfecture de police de Paris, puisque les Allemands avaient demandé aux Juifs de se faire recenser, ce qu'ils avaient fait avec une certaine naïveté, bien sûr, et donc les Allemands n'avaient qu'à puiser. Donc ils ont puisé parmi, en effet, des dentistes, des avocats, etc. Et il y a eu un certain nombre de juifs, 743, qui ont été raflés plutôt dans des quartiers, disons, plutôt bourgeois. C'était des ce qu'ils s'appelaient eux-mêmes, ils s'appelaient eux-mêmes des israélites, ce qui est un terme qu'on n'emploie plus du tout aujourd'hui, sinon peut-être par les antisémites. Mais en tout cas, c'était des juifs intégrés depuis des générations dans la société française.
Souvent d'origine alsacienne, oui.
Oui, mon grand-père était d'origine alsacienne, et il y en avait un tas d'autres qui avaient même oublié, si j'ose dire, qu'ils étaient juifs, enfin en tout cas qu'ils n'étaient pas reliés d'une manière ou d'une autre à la communauté de manière active, et qui donc se sont demandés pourquoi on les arrêtait. Ils avaient été combattants, anciens combattants en 14, souvent en 1940. Je parlais de Pierre Masse qui était là, son frère était colonel, toujours d'active, et ils se disaient mais j'ai toujours servi la France, pourquoi suis-je arrêté? Et ils ont adjoint, pour avoir un contingent de 1000 déportés, la Gestapo voulait arriver à ce chiffre magique, et ils ont adjoint 300 juifs étrangers qui étaient des réfugiés de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie, de Roumanie, et qui avaient fui le nazisme et qui avaient été internés par la France à Drancy. Et donc il y a eu cette cohabitation étonnante de juifs très très intégrés à la la société française et des juifs étrangers qui, eux, avaient déjà connu les pogroms ou la discrimination.
Vous avez retrouvé Anne Sinclair dans les archives des lettres, des journaux qui racontent ce camp de Compiègne qui ont souvent été rassemblés par Serge Larsfeld. Assez peu de traces de votre grand-père, mais des récits terrifiants de personnes traitées comme des animaux et qu'on laisse littéralement mourir de faim à Compiègne.
Oui, ce qui m'a frappé, c'était que ce camp était un camp nazi. C'était un camp nazi en France, administré par les Allemands, théoriquement par la Wehrmacht, mais en fait par la Gestapo, à 70 km de Paris. Et ce camp était un camp assez vaste, où il y avait des prisonniers de civils, à la fois des résistants, des communistes, des juifs, des russes, qui avaient été arrêtés, puisque l'Allemagne avait déclaré la guerre à la Russie un peu plus tôt. Et il y avait un camp des Juifs qui était à l'écart. Et dans ce camp des Juifs, vous parlez de Serge Klarsfeld, en effet, ce livre n'existerait pas sans les récits qu'il a aidé à publier, les récits de survivants ou de ceux qui prenaient le train vers Auschwitz et qui ont jeté leurs derniers souvenirs par la fenêtre du train. Et c'était un camp atroce, un camp où il n'y avait pas de chambre à gaz, pas d'extermination, mais où la solution finale était en marche par d'autres moyens, c'est-à-dire la mort par la faim, par le froid, par la maladie, par des conditions d'hygiène atroces, par le fait qu'ils avaient un morceau de paille pour dormir, ils avaient une soupe par jour, pas de conditions pour rester propre et vaillant. Une cinquantaine d'ailleurs est mort dans ce camp avant que la plupart des autres ne meurent dans les chambres à gaz. Et ils ont été peu nombreux à mourir grâce à la solidarité des autres camps qui étaient là, qui partageaient leur maigre portion, qui était un peu plus riche que celle du camp des Juifs. Et c'était vraiment la mort voulue par la famine, par un sadisme, par la cruauté, par la sauvagerie bureaucratique qu'on a connue par la suite. Et c'était le début de la mise en œuvre de la solution finale, puisque la destination de ces déportés, de Compiègne, devait être et a été pour l'essentiel Auschwitz.
C'est un livre de mémoire, pour la mémoire et pour se souvenir que ce camp-là a existé dans ces conditions-là. Comment se fait-il, Anne Sinclair, que cette histoire vous a si longtemps échappé et que votre curiosité se réveille aujourd'hui ?
C'est un peu mystérieux. D'abord, je pensais connaître beaucoup de choses de l'occupation, de la déportation. J'avais lu en effet tous les livres sur le sujet, y compris d'ailleurs les livres sur la déportation, sur la discrimination et les arrestations en France, comme le livre de Marius et Paxton, comme les livres de Laurent Joly, mais qui traitait plus spécifiquement de la traque des Français, des Juifs par les Français. Les Français, on le sait par la rafle du Veldiv, qui est très emblématique et qui est restée très emblématique, et par les témoignages et par les déclarations successives des présidents de la République depuis Jacques Chirac, la France avait prêté main forte, et on le sait, aux rafles et à l'aide à la déportation. Là, en l'occurrence, il ne s'agissait que des nazis dans cette rafle. Et pourquoi je me suis... Eh ben, c'est le mystère du fait que je m'étais contentée au fond, alors que je n'ignorais rien de cette période, qu'il n'y avait pas de sujet tabou dans la famille, je m'étais contentée d'un récit assez rapide qui disait ton grand-père a été arrêté, enfermé, et ta grand-mère a réussi à le faire sortir juste avant la déportation vers Auschwitz. Et n'ayant pas d'informations, n'ayant pas de documents, n'ayant rien entre les mains, je m'étais contentée de ce récit sur ce grand-père que je n'ai pas connu et qui est mort dans son lit, pas dans des chambres à gaz, mais des suites de cet internement et de cette déportation.
Merci beaucoup Anne Sinclair. La rafle des notables chez Grasset est enfin disponible en librairie, dans les librairies qui ont pu rouvrir. Merci à vous.
Merci. Europe 1.